Donc, je suis absolument ravie d'accueillir Cléo Bertelsmeyer pour nous faire ce séminaire d'aujourd'hui sur le rôle de la mondialisation dans la dispersion des espèces envahissantes. Donc, elle travaille à l'Université de Lausanne où elle a son groupe. Et,
je suis ravie de t'accueillir. Merci Tatiana pour cette invitation. Donc, je vais vous parler un peu des invasions biologiques, mais je vais faire court l'introduction parce qu'on a vu déjà beaucoup d'exemples dans le cours de Tatiana, et plutôt me concentrer sur la recherche actuelle. Et je vais aborder quatre thèmes différents, donc la dynamique temporelle des invasions au cours de 200 dernières années, puis les routes d'introduction complexes des espèces, les flux d'espèces à l'échelle globale, et puis des nouveaux risques liés aux invasions. Et je vais regarder un petit peu le commerce des animaux de compagnie exotiques. Donc là, on voit une carte, c'est la Covid-19, alors on a tous un peu marre de ça, mais je vous montre juste cette carte qui a été faite par des chercheurs vraiment tout au début de la pandémie, au bout de quelques semaines seulement. Et en fait, ce qui est frappant avec cette carte, c'est quand on regarde une carte des flux des passagers aériens, on voit que ça correspond assez bien, ce qui n'est pas très étonnant, puisque c'est l'humain qui a transporté cette espèce partout à l'échelle de la planète. Mais alors, le virus qui a causé cette maladie, le SARS-CoV-2, c'est une parmi des milliers d'espèces envahissantes qui voyagent avec l'humain. Et en fait, on peut les voir en deux catégories. Il y a des espèces qui, comme ce virus, affectent directement la santé humaine. Et puis, il y a d'autres espèces qui affectent la santé de l'environnement, comme on a vu tout à l'heure dans le cours de Tatiana. Mais en fait, il y a une grande différence comment ces espèces sont régulées à l'échelle mondiale. Donc, pour les espèces qui affectent la santé humaine, il y a des contrats, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui établit des contrats avec les pays, qui les contraint à informer les autres si jamais ils ont une maladie, quelque chose qui pose un risque pour les autres pays. Donc c'est pour ça aussi que les chercheurs ont eu des données très tôt dans le processus qui ont permis de modéliser la propagation de cette maladie. Donc, bon, évidemment, on peut dire qu'il y a des pays qui ont plus ou moins bien rapporté leurs données, c'est sûr, mais globalement, c'était quand même très impressionnant comment ça marchait. Par contre, avec les espèces qui affectent l'environnement, alors là, il n'y a aucun contrat contraignant qui force un pays de prévenir les autres. Et en fait, même les pays ont plutôt tendance à ne pas le dire aux autres, parce que s'ils ont une espèce envahissante chez eux, qui pourrait poser un risque, eh bien, ça entrave plutôt les relations de commerce de certaines marchandises. Donc, on ne va plutôt pas le dire. Donc, c'est plutôt plus difficile d'avoir des bonnes données pour modéliser ça. Alors, je ne vais pas trop parler d'exemples d'espèces, on en a déjà vu beaucoup. C'est juste ici pour rappeler en fait qu'on a vraiment une très grande variété d'espèces envahissantes. Donc là, c'est des espèces qui sont répertoriées sur une liste des 100 espèces parmi les pires envahissantes. Et puis, on voit qu'on a un peu de tout. On a des micro-organismes, des mammifères, des reptiles, des oiseaux, des poissons, des invertébrés, des plantes, etc. Donc, en Europe, on connaît plus de 12 000 espèces introduites et plus de 400 ont été qualifiées d'envahissantes, donc qui causent des impacts sur l'environnement ou la santé humaine qui sont notables. Donc, finalement, c'est quoi une invasion biologique? Eh bien, ça commence avec le mouvement des espèces en dehors de leur aire native. Donc, il y a des barrières historiques qui contraignent cette aire native des espèces, et puis un mouvement vers une nouvelle aire. Et en fait, ça peut arriver naturellement, comme en 2011, il y a eu un tsunami au Japon qui a transporté des centaines d'espèces le long de milliers de kilomètres. Mais ce type d'événement naturel est relativement rare par rapport au transport par l'humain qui se passe tout le temps à l'échelle mondiale. Alors, une fois introduite dans son aire envahie, pourquoi une espèce, finalement, devient-elle envahissante alors qu'elle n'est pas chez elle dans son aire native? Mais là, il y a une multitude d'hypothèses pour expliquer ça, mais je vais juste vous dire les plus courants. C'est que d'une part, elle s'échappe des ennemis naturels qu'elle avait dans son aire native, par exemple des prédateurs, des herbivores, des parasites, des pathogènes. Donc en fait, tout ce qui contraint en fait sa population dans l'aire native, elle est un peu libérée de ses ennemis naturels. Et puis d'autre part, quand elle arrive dans son aire introduite, il y a aussi des écosystèmes qui ne sont pas saturés, il y a des niches vides qui peuvent être exploitées par l'espèce envahissante. Et puis elle est aussi confrontée à des espèces naïves qui n'ont pas coévolué avec elle, qui ne connaissent pas ces traits de l'espèce qui est introduite. Alors, le processus d'invasion, on peut le séparer en différents stades. Donc, le premier, c'est l'introduction. Donc, il faut qu'il y ait un mouvement de l'espèce. Ensuite, il faut encore qu'elle puisse survivre et se reproduire dans cette aire envahie. Donc là, on va parler d'une espèce exotique ou introduite. Et puis, si ensuite elle arrive à se propager d'elle-même et si elle cause des impacts sur l'environnement, on va l'appeler une espèce envahissante. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque étape, il y a plein d'espèces qui n'y arrivent pas. Donc, on estime qu'il y a à peu près 10% des espèces qui sont transportées par l'humain qui arrivent à s'établir. Et parmi ces espèces qui sont établies, il y a à peu près 10% qui finissent par causer des impacts. Donc, finalement, la plupart des espèces introduites ne sont pas envahissantes, mais quand elles le deviennent, ça peut vraiment être catastrophique. Alors, donc, mes recherches de mon groupe s'intéressent à deux axes. Donc, d'abord, on essaie de comprendre des effets sur cet établissement des espèces, donc notamment l'impact du changement climatique, et puis essayer de comprendre comment les espèces peuvent survivre dans de nouvelles conditions environnementales et comment elles peuvent faire face à des nouvelles communautés d'espèces auxquelles elles sont confrontées. Et puis, deuxièmement, on s'intéresse à l'impact de la mondialisation sur le processus d'introduction. Donc, dans cet exposé aujourd'hui, je vais vous parler surtout de l'impact de la mondialisation sur le transport, parce que je pense que c'est vraiment un très bon exemple qui illustre comment, en fait, il faut s'intéresser à l'humain pour comprendre les menaces de la biodiversité. Et puis, aujourd'hui, quand on veut comprendre ces menaces, il ne suffit plus de regarder avec nos lunettes de biologiste purement, mais aussi d'essayer de comprendre les processus humains, en fait. Donc, le premier thème, c'est la dynamique temporelle d'introduction d'espèces. Donc, la mondialisation, donc quand on pense à la mondialisation, souvent on a tendance à penser aux dernières décennies. C'est un peu ça qui évoque le mot mondialisation. Mais en fait, c'est toute une histoire, la mondialisation. Elle a commencé très tôt. Donc, juste quelques exemples que vous connaissez certainement. C'est là, ici, là, on voit la route de la soie qui, depuis plus de 2000 ans, il y a eu des transports de marchandises, notamment de luxe, de la Chine vers l'Europe. Puis après, il y a eu d'autres routes, des routes des épices, où il y a des marchands musulmans qui ont transporté des épices, notamment de tout le tour de la Méditerranée. Après, on connaît l'âge des découvertes au XVe siècle avec les expéditions de Magellan, Christophe Colomb et d'autres qui ont aussi ouvert nouvelle voie de transport, de voyage et de commerce. Mais bon, tout ça, c'est resté à une échelle relativement petite jusqu'à la révolution industrielle où, d'un coup, la technologie humaine des transports, la vitesse des transports a explosé. On a eu des chemins de fer et des machines à vapeur qui ont tout ça accéléré. Donc ça, c'était vers fin 18e siècle. Et après, après la première vague de mondialisation, on a eu un peu une chute des commerces internationaux avec les deux guerres mondiales et la crise économique. Et puis après, par contre, maintenant, on est dans la deuxième vague de mondialisation avec l'accélération des transports et puis aussi la mise en place de ces containers qui protègent en fait les marchandises et puis aussi du coup les espèces qui voyagent à l'intérieur. Donc ça a beaucoup contribué à l'introduction d'espèces partout sur la planète. Et donc, on voit que finalement le monde est devenu de plus en plus connecté, ça s'est accéléré. Mais quel est cet effet sur la dynamique des invasions à l'échelle du monde ? Eh bien, ça, c'est une figure d'un article qui est extrêmement cité dans la littérature, où les auteurs ils ont regardé les nouvelles invasions par pays depuis 1800 jusqu'aux années 2000. Et puis, en fait, voilà, c'est une grande augmentation. Donc là, bon, ça colle un peu avec cette idée expansion, accélération, de plus en plus d'invasions. Mais en fait, il y a Aymeric Bonamour qui est en thèse avec moi à Lausanne. Il a dit, oui, mais d'accord, mais en fait, le nombre d'observateurs aussi a augmenté dans le temps. Donc il y a de plus en plus de scientifiques, il y a des sociétés savantes, on a collecté de plus en plus de données. Donc est-ce qu'il n'y a pas une part de cette accélération-là qu'on observe qui est simplement due au fait qu'on regarde de plus en plus ces espèces ? Et donc, pour en fait essayer de comprendre à quel point cette dynamique est liée au commerce international, il faudrait essayer de séparer ces deux effets. Et donc, il a fait ça. Il a regardé ici, en fait, en rouge, ça c'est juste les données brutes de nombre d'observations d'insectes au cours du temps, insectes invasives. Et puis en vert, c'est la courbe à laquelle on s'attendrait, seulement basée sur le nombre d'observations par les naturalistes dans le temps. Et vous voyez, cette courbe-là aussi paraît très proche, en fait. Elles sont très proches. Et si on regarde pour les plantes, c'est un peu la même chose. Et donc, il a fait un modèle pour prendre en compte cet effet d'observateur, pour regarder quelle est la part de la variance qui reste si on prend en compte l'augmentation des observateurs. Et en fait, là, on voit quelque chose de très différent. Donc, si on corrige pour les observateurs. Là, on voit quelque chose... Il y a une première vague ici, vers 1850, et puis, pof, un déclin vers 1950, et puis on voit une deuxième vague, en fait. Et on a la même chose pour les plantes. Donc on a vraiment une première vague d'introduction qui colle très bien à la première vague de la mondialisation, puis une chute de nouvelles introductions entre les deux guerres mondiales, et la crise économique avant d'observer une nouvelle hausse. Et donc, il a regardé si ça collait bien avec en fait, les données d'ouverture du commerce qu'on a ici en gris, qui montrent ces deux vagues. Et puis, c'est très corrélé, en fait. Ensuite, donc là, on a vu que les invasions sont très liées à cette dynamique de la mondialisation. Mais comment ces espèces arrivent dans leur aire envahie? Eh bien, en fait, donc une possibilité, c'est que, bon, d'abord, une espèce, elle est introduite une fois dans une aire envahie, et puis la même chose se répète encore et encore et encore. Donc là, à chaque fois, il y a des individus qui sont prélevés dans cette aire native et puis qui sont introduites dans différents aires. C'est ce qu'on va appeler des introductions primaires. Ou alors, autre option, c'est qu'il y a eu un événement d'introduction dans une aire envahie et puis qui génère d'autres introductions secondaires. Alors, c'est intéressant de savoir si ça a lieu souvent ce phénomène parce que, en fait, si c'est répandu, ben, ça veut dire que plus on a d'invasion, plus on a d'invasion, ça fait une sorte de boule de neige parce que les espèces envahissantes qui s'établissent quelque part, si à chaque fois ça crée de nouveaux foyers qui vont générer des propagules, c'est beaucoup plus inquiétant que si c'est à chaque fois des individus qui partent de l'aire native. Alors, dans le passé, il y a des gens qui ont étudié ça avec des marqueurs génétiques. Donc, on a vu tout à l'heure dans le cours des exemples où, en fait, les chercheurs sont allés prendre des individus de tous ces aires et puis, par la génétique des populations, ils ont retracé les routes d'introduction des espèces. Donc là, on peut savoir si, pour ces espèces, c'est fréquent, les introductions secondaires ou pas. Mais le problème, c'est que c'est seulement une poignée d'espèces qu'on a pu étudier comme ça, parce que c'est beaucoup d'efforts, il faut faire un échantillonnage. Donc finalement, on ne sait pas si généralement c'est quelque chose de très répandu ou pas. Alors comment l'étudier ? Eh bien, on a eu l'idée de faire autrement, en fait, et puis d'étudier des interceptions dans des ports et aéroports. Donc, en fait, il y a quelques pays au monde où il y a des inspecteurs de biosécurité qui regardent les marchandises qui arrivent. Et à chaque fois qu'ils voient un insecte ou autre chose arriver dans une marchandise, ils vont l'enregistrer dans une base de données avec le nom de l'insecte, l'année où il est arrivé, le pays d'où est venue cette marchandise, et puis aussi le type de marchandise sur lequel voyageait l'insecte. Le problème, c'est que ce type de données est extrêmement difficile à obtenir parce que souvent, ce sont des gouvernements de pays qui possèdent ces données et qui ne veulent pas les donner, en fait. Mais j'ai eu la chance d'établir des collaborations avec ces deux personnes des États-Unis et de Nouvelle-Zélande qui étaient d'accord pour établir le contact, en fait, et puis rendre ces données disponibles à la recherche. Et donc, on a travaillé sur les fourmis. Alors, je pense que maintenant, si vous avez écouté la conférence de Laurent Keller, les fourmis n'ont plus besoin d'introduction. Mais pour ceux qui n'ont pas été là, ces fourmis envahissantes sont vraiment un super système, modèle pour la recherche. Il y a plus de 15 000 espèces de fourmis. Elles sont présentes sur tous les continents. Il y a une énorme diversité écologique. On connaît aussi, on a très bonnes données de distribution. Il y a plus de 240 espèces introduites dans le monde. Et puis, une vingtaine qui est très problématique, reconnue par l'UICN. Et puis ici, on a un exemple d'une fourmi Tapinoma magnum qui vient de la Méditerranée, qui a été introduite chez nous en Suisse, à Lausanne. Elle est aussi présente en France, dans la région lyonnaise. Et puis vous voyez, elle forme des sortes d'autoroutes de fourmis incroyables. Donc normalement, si vous avez déjà observé un chemin de fourragement de fourmis, on voit une fourmi après l'autre. Là, ça fait comme une autoroute à 10 voies. Donc c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant. Et puis quand elles s'attaquent, peuvent même s'attaquer à des animaux beaucoup plus grands qu'elles. Comme des petits oisillons, un petit reptile. Voilà, donc on a regardé donc les interceptions de fourmis aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande pour regarder ces fourmis quand elles arrivent en Nouvelle-Zélande, en Australie, est-ce qu'elles viennent de leur aire native ou est-ce qu'elles viennent d'un endroit où elles sont déjà envahissantes. Donc, alors, pour les États-Unis, il y a combien de pourcents qui ne viennent pas de leur aire native ? Eh bien, il y a 75% qui viennent d'ailleurs que de leur aire native. En Nouvelle-Zélande, c'est même plus. C'est 87% de tous les fourmis qui arrivent en Nouvelle-Zélande, elles arrivent d'une aire où elles sont déjà envahissantes. Et puis, si on regarde que des espèces envahissantes, donc qui ont des impacts répertoriés, ces chiffres sont encore plus impressionnants. Donc en Nouvelle-Zélande, c'est même 95%. Donc la plupart des espèces, quand elles arrivent, ne viennent pas de leur aire native. Et on peut même regarder ici sur une carte qu'on a fait. Donc là, sur cette carte, ça, c'est les flux des espèces vers les États-Unis. Et chaque camembert, en fait, la taille de chaque camembert est proportionnelle au nombre de fourmis qui est venu de chaque pays. Et puis, à l'intérieur du camembert, en fait, on a coloré selon l'aire native de ces espèces. Et alors, vous voyez, donc la chose qu'on voit ici, c'est qu'il y en a beaucoup qui arrivent d'Amérique latine. Et on voit que sur ces camemberts, il y a beaucoup de rouge. Alors, le rouge, ça correspond en fait à l'Afrique. Donc, ça veut dire que ce sont des espèces qui sont originaires d'Afrique, qui à un moment ont été introduites en Amérique latine, et puis que maintenant on intercepte aux États-Unis venant de l'Amérique latine. Donc, c'est vraiment un réexport de ces espèces par l'Amérique latine. Et puis aussi, on regarde la même chose pour la Nouvelle-Zélande. Et bien, pareil, on voit qu'il y a beaucoup de camembert ici, donc dans la région qui est l'Océanie, qui est proche de la Nouvelle-Zélande. Et puis, on voit qu'il y a encore beaucoup de rouge, donc des espèces d'Afrique. Et puis, rose, c'est l'Asie, donc des espèces qui sont natives d'Asie, qui ont été introduites ici d'abord et puis qui sont interceptées en Nouvelle-Zélande. Donc à chaque fois, on a une région qui représente une sorte de hub qui redispatche les espèces dans toutes les directions. Et donc on a trouvé que oui, il y a beaucoup d'introductions secondaires, mais est-ce qu'elles contribuent à accélérer les invasions, comme on peut l'imaginer par un espèce d'effet de boule de neige? Et alors, donc on a testé, s'il y a une boucle rétroactive, il devrait y avoir, d'abord, il devrait y avoir un lien entre le nombre d'introductions et la probabilité d'établissement. Donc plus vous introduisez d'individus, plus il y a de chances qu'il y ait une population qui arrive à se maintenir. Parce que, et ça, on a trouvé qu'effectivement, il y avait ce lien-là. Plus on introduit d'individus, plus on a une grande diversité génétique, plus il y a de chances qu'elles survivent, se reproduisent. Donc ça, c'est vrai. Plus il y a d'introduction, plus grande est la probabilité d'établissement. Et ensuite, plus elles s'établissent, donc plus elles sont répandues dans le monde, dans un grand nombre de régions, et bien plus on observe d'introduction à un endroit donné, comme les États-Unis ou la Nouvelle-Zélande. Donc oui, on a une boucle rétroactive. Alors là, on a vu des routes un peu complexes d'introduction des espèces, mais qu'en est-il des flux globaux? Alors, c'est quelque chose que déjà Darwin, en fait, a réfléchi à ça. Donc, pendant son voyage, où il a fait le tour de la Terre, ici, sur le Beagle, il a observé qu'il y a des plantes, il s'est surtout intéressé aux plantes, il y a beaucoup de plantes qui viennent d'ailleurs, notamment d'Europe. Et en fait, il a dit, c'est étrange, on observe beaucoup de plantes de l'hémisphère nord qui sont introduites sur l'hémisphère sud. Alors pourquoi? Pourquoi dans ce sens-là et pas inversement? Inversement, on a beaucoup moins. Et donc lui, dans son livre, il conclut que c'est peut-être parce que les plantes du Nord seraient plus avancées par la sélection, elles seraient plus perfectionnées, plus compétitives, et donc elles auraient une plus grande capacité à dominer que les plantes du Sud. Alors voilà, ça c'est avec les idées de l'époque, hein. Il essaie d'expliquer ça. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on a de bonnes données au niveau global, est-ce que c'est vrai ce qu'il a observé? Est-ce qu'il y a vraiment plus de plantes du Nord qui envahissent le Sud qu'inversement? Donc là, il y a une équipe de chercheurs qui a étudié ces flux, ces échanges de plantes entre continents. Alors, ces graphiques sont horribles, hein, on n'arrive pas bien à les lire, et c'est même pas... Je pense que les chercheurs, ils aiment bien ces graphiques, parce que ça fait joli, mais ce n'est pas la meilleure manière pour représenter l'information. En gros, ce qu'on voit ici, c'est que chaque barre colorée, c'est une région du monde. Ici, par exemple, on a l'Afrique en jaune. Et il y a deux parties. Il y a une partie qui est remplie, une partie qui est blanche. Et cette partie qui est remplie, ce sont des espèces africaines qui sont parties de l'Afrique vers d'autres continents. Et puis la partie qui est blanche, ce sont des espèces qui viennent d'autres continents et puis qui sont arrivées en Afrique. D'accord ? Et en fait, donc, eux, ils comparent ces flux qu'on observe à des flux théoriques. Alors, les flux théoriques, c'est basé sur l'idée quels auraient été les échanges si ça correspondait simplement aux proportions de plantes sur chaque continent. Donc, il y a des continents qui sont plus riches en espèces. Donc, on s'attendrait que ces continents aient généré plus d'invasions ailleurs, simplement du fait qu'ils ont plus d'espèces. Donc, ça, c'est les flux théoriques. Si ça correspondait vraiment juste à la richesse d'espèces sur chaque continent. Et puis, ils trouvent il y a une différence qu'on ne voit pas très bien à l'œil, hein, mais il y a une différence entre ces deux parties. Et en fait, ce qu'ils trouvent, c'est que les plantes de l'Ancien Monde, ce n'est pas vraiment Nord-Sud, mais c'est plutôt Ancien Monde, Nouveau Monde, donc l'Ancien Monde, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, qui auraient plus envahi le Nouveau Monde qu'inversement. Et dans cet article, il y a quelques années, qui était publié dans la revue Nature, ils ont essayé d'expliquer pourquoi, mais ils n'ont pas fait d'analyse pour essayer de comprendre ça quantitativement. Ils ont un petit peu spéculé pourquoi. Et ils ont dit peut-être que les plantes de l'Ancien Monde auraient des traits en lien avec la compétition, la domination, qui ont fait que c'était super bonnes envahisseuses. Donc, ce serait peut-être une préadaptation à envahir ailleurs. Alors, après eux, il y a d'autres gens qui ont fait le même genre de graphique, hein, encore, pour d'autres groupes taxonomiques, comme les amphibiens et les reptiles. Et puis, ce qu'on voit, c'est que c'est très différent selon les groupes taxonomiques. Hein. Donc, même sans regarder les détails, on voit ici, par exemple, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud jouent beaucoup sur les amphibiens. Ici, c'est moins le cas. Et à chaque fois qu'on regarde un groupe taxonomique, c'est un peu différent, en fait. Il y a d'autres régions du monde qui sont importantes pour générer des espèces invasives et d'autres moins. Et à chaque fois, on a une bonne explication, hein. Donc les chercheurs ont toujours une bonne explication pourquoi les espèces de telles régions sont plus compétitives que les autres. Par exemple, pour les fourmis, on a noté qu'il y a beaucoup de fourmis qui viennent de l'Amérique du Sud, d'Argentine, à Uruguay. Et puis on dit, c'est clair, c'est parce que c'est une région qui est souvent inondée. Et donc, en fait, ça sélectionnait des traits chez les fourmis qui les préadaptent résister à des changements environnementaux et puis donc à coloniser vite d'autres endroits. Donc, vous voyez, pour chaque groupe taxonomique, on a une histoire. Hein, mais, et en fait, moi, j'ai pensé, mais ces histoires qu'on raconte sur chaque faune ou flore régionale et pourquoi les traits sont importants de cette espèce, ces espèces, mais finalement, on n'a jamais testé ça. Est-ce que c'est vraiment les traits de ces espèces ou est-ce que ce ne serait pas simplement un peu l'opportunité de voyager des espèces? Donc, peut-être que c'est simplement un peu la direction des flux de commerce et puis des marchandises sur lesquelles voyagent ces espèces. Et puis ça peut différer selon les groupes taxonomiques parce qu'elles ne voyagent pas de la même manière. Hein. Il y en a qui sont introduits parce que ce sont des animaux de compagnie, comme les amphibiens, des reptiles, et d'autres, comme des insectes, qui voyagent accidentellement. Et donc, on a décidé de regarder ça chez les fourmis, avec Sébastien Ollier, qui est un maître de conférence à Paris-Saclay. Et donc ça, ce sont des flux de fourmis vers les États-Unis. Et donc on a essayé d'expliquer ces flux de fourmis par les flux de commerce, en fait. Parce que les fourmis sont introduites essentiellement, accidentellement, sur des marchandises, en fait. Et c'est pas une cible d'un jeu de fléchettes, mais c'est un radar chart où on voit en fait l'importance de chaque continent dans ces flux. Donc en rouge, on a des fourmis qui viennent beaucoup d'Amérique latine, un petit peu d'Europe, un petit peu d'Asie, un petit peu d'Amérique du Nord, pas tellement d'Afrique et d'Océanie. Et puis en fait, en noir ici, ça c'est les flux de commerce qui arrivent aux États-Unis. Et là, bah, on peut dire que c'est un peu raté. On a un peu raté la cible, hein, avec notre hypothèse, hein, parce que ça vient beaucoup d'Europe et d'Asie. Ça ne colle pas tellement bien. Hein. Alors, après, on s'est dit, oui, mais bon, le flux de commerce en général comprend beaucoup de choses qui ne transportent pas les fourmis, des ordinateurs, des voitures, etc., qui comportent très peu de risques, en fait, d'avoir des espèces vivantes. Donc, on a pris le commerce agricole. Alors, commerce agricole, vous voyez, ça colle un peu mieux déjà aux fourmis, mais pas super bien non plus. Il y a aussi encore l'Amérique du Nord, l'Asie, qui est importante. Et bon, donc là, on a regardé, mais qu'est-ce qu'il y a dans le commerce agricole ? Et bien, en fait, il y a la viande, du poisson, des choses comme ça qui ne transportent pas tellement les fourmis. En fait, nous, on sait par les interceptions, on peut regarder sur quel type de marchandises arrivent les fourmis, et puis ce sont essentiellement les plantes et les fruits et légumes. Donc, si on regarde juste le commerce des plantes et des fruits et légumes, eh bien là, on voit que ça colle super bien, en fait. Et après, on s'est dit, bon, est-ce que cette cohérence, elle n'est pas un peu due au hasard ? Et du coup, on a regardé 97 catégories de marchandises qui sont recensées. Et en fait, il n'y a aucune qui colle statistiquement au flux des fourmis, à part ce commerce-là des fruits et des légumes. Donc, c'est quand même peu probable de trouver cette cohérence seulement par hasard. Donc, en fait, oui, les flux globaux de fourmis sont bien expliqués par l'opportunité de voyager sur des flux fruits et des légumes et des plantes. Je vais passer au quatrième sujet de recherche auquel on s'intéresse. Et c'est le commerce d'animaux de compagnie. Donc, jusqu'à présent, j'ai surtout parlé des recherches qu'on fait sur les invasions mais de nature accidentelle, hein, c'est le transport accidentel des animaux. Mais en fait, il y a un commerce d'animaux de compagnie et aussi de plantes ornementales qui est extrêmement important à l'échelle du monde. Donc, si vous allez dans une boutique, en fait, ça devient vraiment un phénomène très important que les gens achètent de plus en plus d'animaux de compagnie. Donc, pas seulement des chats et des chiens depuis la pandémie de la Covid, mais aussi beaucoup d'animaux exotiques comme des mantes religieuses, par exemple, comme des araignées, des reptiles, etc. Et aussi pas mal d'autres choses. Et en fait, c'est un commerce qui comprend des millions d'individus, de milliers d'espèces qui sont transportées chaque année à l'échelle du monde, et on a estimé à plus de 200 milliards d'euros l'ampleur de ces échanges par année. Et donc c'est un commerce qui comprend pas mal de risques, aussi de risques pour la biodiversité directement en fait, parce qu'on prélève des individus, souvent ce sont des espèces qui sont menacées, on a déjà vu dans le cours de Tatiana tout à l'heure, donc il y a des risques directs d'exploiter ces individus, mais aussi des risques indirects, parce que beaucoup de ces espèces prélevées dans la nature sont vecteurs de zoonoses. Donc par exemple, il y a des espèces comme les escargots africains que vous pouvez voir sur des réseaux sociaux, que les gens achètent, qui se mettent sur la peau, sur le visage. On peut voir beaucoup de photos de ça sur les réseaux sociaux. Et en fait, ces escargots, non seulement elles sont une espèce envahissante, une des pires au monde, mais en plus, elles sont un vecteur de nématodes qui peuvent être extrêmement dangereux pour l'humain parce que ça cause des inflammations au niveau du cerveau. Donc voilà, et puis donc ces espèces peuvent aussi bien sûr causer des les invasions, parce que les gens, alors, on prélève ces espèces dans l'air native, puis on les transporte à l'échelle du monde, parfois en un programme de reproduction en captivité, et puis après, on les vend. Et là, bon, il y a tout commerce d'animaux exotiques, il y a une partie des animaux qui va s'échapper naturellement, ou bien parce que aussi les personnes qui les possèdent les relâchent dans la nature. Par exemple, si vous avez une colonie de fourmis, à moins d'être myrmécologue passionné comme moi-même, par exemple, il y a beaucoup de gens, mais ils se lassent un petit peu. Au bout d'un moment, vous avez une colonie de fourmis, ben voilà, ça peut vivre très longtemps. Les fourmis, une reine de fourmis peut vivre jusqu'à 30 ans. Donc voilà. Et puis qu'ils relâchent ces animaux de la nature. Et puis là, ça peut causer des invasions. Et donc, en fait, on s'est un peu intéressé à ça, à ce lien entre le commerce d'animaux de compagnie et les invasions. Et on a voulu estimer la proportion d'espèces qui sont commercialisées, qui sont aussi envahissantes. Et donc, on a fait cette étude avec Jérôme Jippé, qui est postdoc de mon équipe à Lausanne. Et puis, donc on a d'abord regardé pour ces différents groupes d'espèces combien d'espèces sont envahissantes, en fait, par groupe. Donc ça, c'est le pool d'espèces au niveau global pour les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les poissons. Et la partie en rouge, ce sont celles qu'on a répertoriées qui sont envahissantes. Et donc, voilà, ça tourne autour de 2-3% des espèces au niveau global. Maintenant, si on regarde pour les espèces qui sont commercialisées comme animaux de compagnie, eh bien là, la part est beaucoup plus importante. Alors, il y a plusieurs camemberts par groupe taxonomique parce qu'en fait, ça correspond à différentes études qu'on a recensées. Hein. Donc là, c'est au niveau mondial deux fois, mais il y a différentes méthodologies, donc on n'a pas voulu les mettre ensemble, ces résultats. Et puis parfois, c'est aussi différents pays. Là, on a les États-Unis ou la Suisse. Mais ce qu'on voit globalement, c'est que dans tous les cas, quelle que soit l'étude qu'on a regardée, la proportion d'espèces envahissantes est beaucoup plus élevée, donc 7-8 fois plus élevée que dans le pool des espèces au niveau global. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette surreprésentation d'espèces envahissantes dans le commerce des animaux de compagnie? Est-ce que c'est parce que ce commerce sélectionne pour des espèces qui sont envahissantes? On pourrait l'imaginer, parce que souvent, ce sont des espèces relativement robustes, difficiles à tuer, elles se reproduisent facilement en captivité. Donc peut-être ce sont des traits qu'on a sélectionnés dans le commerce lui-même. Mais l'autre possibilité, c'est que c'est simplement parce que le commerce des animaux dans le passé a donné l'opportunité à ces espèces de devenir envahissantes par la suite, parce qu'elles ont été relâchées. Alors, comment faire la différence entre ces deux hypothèses? C'est pas facile, parce que pour la plupart de ces espèces de vertébrés qu'on a vues sur la figure, ce sont des commerces qui sont établis depuis longtemps, en fait, depuis des décennies, on fait le commerce de poissons, d'amphibiens, de reptiles. Donc on ne peut plus savoir quelle est la cause et l'effet, en fait, de ce phénomène. Et donc on a décidé de s'intéresser aux fourmis. Alors, il y a des très jolies fourmis, hein, que les gens aiment bien garder chez eux. Et en fait, au début, moi, je n'étais pas très convaincue, commerce de fourmis de compagnie, parce que... bon, ouais. Mais alors, Jérôme, il a dit, si, tu vas voir. Alors, j'ai dit, OK, on va regarder. Et puis, en fait, c'est incroyable. Il y a un commerce de fourmis en ligne, donc c'est dans les boutiques en ligne. Vous pouvez acheter des fourmis venant de partout du monde. Et puis, en fait, elles arrivent comme ça dans un tube avec un petit peu d'eau. Là-dedans, une reine, les ouvrières. et puis c'est envoyé par la poste. Il n'y a aucune réglementation là-dessus. Hein. Vous pouvez acheter ce que vous voulez, de continent que vous voulez. Ça arrive en quelques jours. Et puis alors, même les fourmis les plus envahissantes du monde, qui sont sur la liste des 100 espèces les plus envahissantes, il y a 5 espèces de fourmis, il y en a trouvé 4 qui sont vendues dans les boutiques en ligne. Souvent, les vendeurs, même, ils vous vendent ces fourmis parce que c'est facile à élever. Il y a une croissance très forte de la colonie. Donc, vraiment, les mêmes caractéristiques qui les rendent envahissantes par la suite. Donc voilà, donc on s'est intéressé à ce commerce. Et en fait, l'avantage qu'il y a avec ces fourmis, c'est que c'est un commerce qui est très récent. Ça fait une dizaine d'années seulement que les gens ont commencé à acheter beaucoup de colonies de fourmis sur Internet. Donc c'est un commerce qui n'a pas pu causer les invasions qu'on voit aujourd'hui, qui datent depuis... beaucoup d'invasions sont assez anciennes. En fait, on a déjà, depuis 150 ans, on a pas mal d'invasions de fourmis. Donc, c'est récent. Du coup, là, on peut vraiment regarder, est-ce que ce commerce-là sélectionne encore pour les espèces envahissantes. Donc, voilà, on a trouvé, d'abord, on a un peu quantifié ce commerce. C'est vraiment des échanges à l'échelle mondiale. Et puis, le nombre de boutiques en ligne a explosé depuis les années 2000. Et alors, est-ce qu'on retrouve une surreprésentation? Eh bien, oui. Donc, voilà, ça, c'est le groupe des fourmis à l'échelle mondiale, il y a un peu moins de 2% qui sont envahissantes. Et parmi celles qui sont commercialisées, il y a plus de 500 espèces, on a trouvé 520 espèces qui sont vendues dans les boutiques en ligne. Eh bien, 11% de ces fourmis sont envahissantes. Et puis en plus, ces fourmis-là sont vendues, proposées par plus de vendeurs en moyenne que les fourmis qui ne sont pas envahissantes. Et donc, est-ce que c'est lié à leurs traits? Et bien, en fait, on a regardé différents traits de fourmis qui sont associés avec leur caractère invasif. Et on a trouvé que le généralisme d'habitat et la taille de leur distribution, ce sont des caractéristiques qui sont associées à la fois avec leur caractère invasif et le fait d'être très commercialisé. Donc, on pense qu'en fait, c'est un effet qui est parce que ces fourmis sont assez faciles à collecter. Ce sont souvent des grandes colonies avec beaucoup de reines. Donc, pour un vendeur qui veut proposer ces fourmis, c'est assez facile à collecter. En plus, elles sont présentes un peu partout dans le monde. Donc, très facile à prélever et puis vendre sur Internet. Voilà, donc on a vu que les espèces envahissantes sont surreprésentées dans le commerce des animaux de compagnie. Et on sélectionne un petit peu des traits en lien avec l'invasion, comme le fait d'être assez généraliste, pouvoir vivre dans plein d'habitats, avoir des grandes colonies superficielles. Et puis, voilà, donc c'est un grand risque pour les invasions futures, ce commerce des animaux. Et surtout, en fait, pour des espèces comme les insectes, où il n'y a aucune réglementation qui régule quoi que ce soit, vous pouvez acheter ce que vous voulez et puis le relâcher si vous voulez. Et donc, en résumé, on a vu dans cette présentation la dynamique des invasions au cours des 200 dernières années. Et puis, on a vu qu'en fait, ce n'est pas une seule accélération continue, mais on a vu deux vagues de mondialisation. Une première qui était déjà très importante après la révolution industrielle, qui a déjà propagé beaucoup d'espèces envahissantes à l'échelle mondiale, vers 1850-1900. Après, on a vu une chute du nombre de nouvelles introductions avec les deux guerres mondiales et la crise économique, et puis ça a repris ensuite après les années 1960. On a vu que les introductions secondaires sont fréquentes, donc c'est vraiment un phénomène de boule de neige. Plus on introduit d'espèces, plus elles établissent de nouvelles populations, plus ça crée de nouvelles invasions. On a vu que ces flux d'espèces peuvent varier selon les groupes taxonomiques. On n'a pas les mêmes continents qui sont sur ou sous-représentés comme donneurs et receveurs d'espèces envahissantes. Et puis, c'est probablement lié à l'opportunité de voyager. Donc, nous, on a étudié les fourmis, mais ce serait intéressant, bien sûr, de regarder d'autres groupes dans le futur. Et puis, on a vu aussi qu'il y a de nouvelles routes d'introduction, nouveaux risques, notamment avec le commerce d'animaux de compagnie. Et puis, c'est renforcé par les réseaux sociaux et les boutiques en ligne qui facilitent en fait, le fait d'acheter des animaux. Il y a beaucoup de forums aussi d'éleveurs de différents types d'espèces qui proposent des espèces que vous pouvez acheter en ligne. Donc nous, on s'intéresse aussi pas mal à cet aspect de réseaux sociaux, maintenant, de regarder les données qu'on peut avoir sur Instagram et Facebook et compagnie, sur les espèces qui sont maintenues et vendues. Voilà, alors avec ça, je finis mon tour. Et puis, bien sûr, la recherche ne se fait pas tout seul, donc je tiens à remercier particulièrement mon équipe de recherche. Donc là, on dirait un peu un gang de bikers. Mais en fait, c'est faux, ce sont des trottinettes, hein, en réalité. Voilà, Amy, merci beaucoup aussi à vous pour votre attention. Merci.